Et nous le voyons, moi je n'ai pas peur des mots, si vous voulez. Vous prenez la question de l'avortement qui agite le petit monde, parce que là encore, on s'approche de l'art royal, si vous voulez, l'art du gouvernement. Je vous dis, c'est de mettre les gens dans les cases, c'est clivant. Le pavé mosaïque, il est clivant. Et quand vous voulez dominer quelqu'un, c'est le fameux adage romain diviser pour régner, vous le divisez en cases. Donc il n'y aura plus que le lien entre les deux, donc le lien maçonnique, en ce qui me concerne, qui va permettre de concilier les contraires. Alors évidemment, ils cherchent la petite bête, si vous voulez, pour éliminer les gens. C'est le racisme, je veux dire, au sens de racisme sémantique, s'il est, c'est de trouver la chose, le péché. Alors, déjà, une chose à dire dans l'inversion, c'est que j'ai quand même vécu assez longtemps pour voir que tout ce qui était condamné pénalement, enfin, beaucoup de choses, quand j'étais plus jeune, maintenant, on est condamné quand on le condamne. Hein, vous voyez, c'est les mots en phobe. C'est-à-dire que quand vous prenez le code pénal, c'est très intéressant, et vous le prenez il y a 50 ans, il y avait tout un ensemble de choses, je pense à l'avortement puisque c'était à la mode, c'était considéré comme un crime. Mais tout à coup, par l'opération du Saint-Esprit maçonnique, eh bien maintenant, c'est la gloire. C'est-à-dire que le droit à l'avortement, avec des formules complètement stupides qui montrent la crétinisation dans laquelle on est, mon corps m'appartient. Ah d'accord, mon corps m'appartient. Mais je vous fais remarquer que quand il y a, si vous voulez, un embryon, l'embryon est issu d'un homme et d'une femme. Donc, c'est une copropriété. Et je vous le dis en tant qu'auteur, quand vous êtes auteur, vous avez des œuvres communes. Quand vous êtes deux à faire une œuvre, vous êtes commune. Or, l'embryon est une œuvre à deux. C'est-à-dire qu'il est la propriété, je mets entre guillemets la propriété, de l'homme et de la femme. Et c'est étonnant, les hommes n'ont pas eu leur mot à dire. Et quand on dit la femme m'appartient, mon corps m'appartient, si l'embryon était assez fort, il pourrait dire mon corps m'appartient, il pourrait tuer la femme aussi. Voyez, on est vraiment dans la folie, c'est pour ça que je n'ai pas peur de le dire. Effectivement, dès l'instant que vous n'admettez pas que dès sa conception, l'embryon a une âme, et donc que tuer, c'est un meurtre, évidemment, et bien à ce moment-là, vous pouvez faire n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé, je vous le rappelle, parce que le président Macron se réclame évidemment du droit blasphème, il l'a fait à la Sorbonne, dans, je veux dire, le silence général. Le clergé n'a pas protesté. Hein, bon. Et donc, ce qui est très dangereux quand on a un président qui se réclame du droit au sacrilège, c'est que le droit au sacrilège, c'est le droit, certes, de blasphémer contre Dieu, mais c'est surtout de tuer son semblable. Parce que le sacré, c'est la vie de l'autre. Et quand vous avez un président qui ne respecte pas le sacré, c'est la vie des autres, eh bien, on en arrive à l'assassinat de masse que je dénonce depuis 2 ans. Sur l'assassinat qu'il y a eu à l'occasion du coronavirus, lorsque, pour la première fois dans l'histoire du monde, un président de la République a éloigné le médecin du malade. Donc, vous voyez, la théologie est là. C'est-à-dire que si vous avez Macron qui, glorifiant Samuel Paty, tout en cachant son crime, parce que je vous rappelle, je l'ai dit, c'est sur ma vidéo, disons que j'accuse de la Toussaint. C'est-à-dire qu'il est allé à la Sorbonne pour faire tout son théâtre, mais là, il a montré la photo de Samuel Paty, qu'il a qualifié du visage de la République, donc le blasphémateur de l'islam, c'est le visage de la République, mais il n'a pas montré la caricature de Mahomet, parce qu'il a quand même une petite sensibilité, il sait très bien que montrer Mahomet dans la posture, si je peux dire, ou dans l'imposture, ce n'était pas possible. Donc on voit que derrière ces mensonges, devant cet arbitraire de masse, il y a quand même une vérité qui est derrière. Et c'est la vérité qui s'impose au diable, qui est le singe de Dieu. C'est qu'il sait très bien qu'il ne faut pas qu'il montre trop sa queue, si vous voulez. Il ne faut pas que ça apparaisse trop. Et c'est pour ça que la théologie, c'est ce que je dis, on va après dans les grès, c'est elle qui doit trancher. Et si vous voulez, ce qui est libérateur dans ce carême initiatique, c'est que tant que on pouvait croire qu'il y avait une laïcité, le schéma de la laïcité est très simple. C'est-à-dire, c'est de dire, il y a les religions, il y a diverses sortes de religions, il faut vivre en paix, donc. Moi, je suis l'État au-dessus de toute cette bande de débiles mentaux qui croient en quelque chose, mais j'assure la paix. C'est ça la laïcité. J'assure la paix et les gens peuvent pratiquer entre adultes consentants ce qu'ils veulent comme religion chez eux. Mais il n'y a
Donc la
pas.
laïcité est donc toujours cette jointure entre les deux dalles, la noire et
Oui,
la blanche, c'est ça?
c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit. Enfin, on peut le voir comme ça, mais là, on va passer, si vous voulez, au niveau supérieur. Mais ça, évidemment, la laïcité, c'est le lien qui empêche le noir et le blanc de se battre, etc. Bon, c'est la conciliation des contraires. Bon. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on pourrait se dire, et ça, on pourrait dire que ça serait la laïcité au sens banal du terme, non maçonnique. c'est qu'on pourrait comprendre, et c'était fait d'ailleurs, ça a été fait dans certains temps, je ne vais pas revenir à l'histoire, c'est qu'évidemment de permettre, c'était le cas des Juifs d'ailleurs qui ont été protégés par le pape, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut jamais oublier toutes ces choses-là, mais c'est qu'on peut admettre qu'il y ait plusieurs, entre guillemets, religions, bien que le judaïsme n'est pas une religion, je tiens à le préciser, ce n'est pas une religion, bon, ça se trouve très facilement, mais on peut l'appeler religion pour faire plaisir. Eh bien, on peut avoir, si vous voulez, on se dit un État qui accepte. Ah, vous avez par exemple à Rome, vous avez toutes les religions qui étaient autorisées. À un moment donné. On peut admettre qu'il y ait plusieurs dieux, tout ce qu'on veut, etc. Mettons. Mais la laïcité maçonnique, elle est anticatholique. C'est une arme de guerre. C'est pas du tout neutre. Si vous voulez. Et il y avait une émission hier sur évidemment la déchristianisation. Il est évident que la magie de déchristianisation, elle était en puissance victorieuse. Dès le 6 octobre 1789, comme je l'explique, parce que dès l'instant que, avec la puissance publique, vous pouvez remplacer les droits de l'homme par les commandements de Dieu, c'est-à-dire concrètement mettre l'homme en bas et puis Dieu ailleurs, eh bien, vous allez nécessairement arriver par la magie, si vous voulez, de l'école, vous allez arriver à une déchristianisation et nous sommes au bout du bout. Parce que, comme le disait, si vous voulez, Paul, disons que dans. Disons que Paul Bourget, bon, dans Le Démon de Midi, lorsque nous ne vivons pas comme nous pensons, nous finissons par penser comme nous vivons. Et quand vous faites vivre un pays comme la France dans la laïcité, c'est-à-dire de la négation du principe de l'alpha et l'oméga de la vie, eh bien finalement, eh bien vous avez une population qui évidemment devient a perdu la foi. Et donc, on le voyait actuellement, vous avez les monuments, les églises qui ne sont plus entretenues parce qu'une église ne peut vivre que s'il y a une foi. Donc, la magie maçonnique, magie noire, est par les formes extérieures. C'est-à-dire que vous avez eu des hérésies, vous avez eu des persécutions, mais je veux dire que les saints, les religieux ont résisté. Mais ils ne sont pas arrivés à résister à la magie. Et ça, c'est un mystère d'iniquité extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la magie, c'est une mécanique, c'est une mathématique. Hein. Je vous donne un exemple. Vous pouvez corrompre une population par des mœurs inavouables, mais vous pouvez la corrompre en n'ayant qu'un enregistrement de pornographie et vous multipliez par la magie télévisuelle et par les vidéos porno, etc. Et ça va être des machines qui vont corrompre. Il n'y a même plus la peine d'y mettre de la foi corruptrice. C'est une mécanique, la corruption. Vous corrompez comme une machine qui fait du boudin ou qui coupe le jambon, etc. Et c'est comme ça que la France, disons, a perdu son âme, c'est par des artifices d'arithmétique et de géométrie. Et c'est là qu'on va arriver, pas maintenant, mais justement au secret de la royale. Comment fonctionne la royale? Mais moi, mon ambition, ce n'est pas uniquement de décrire ce processus de magie noire mortifère, mortifère pour les corps et encore plus pour les âmes. Ce n'est pas de décrire cette mécanique qui a précipité en enfer la France, qui était le pays qui illuminait le monde jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mais c'est de faire ce que j'ai dit, si vous voulez savoir, voilà le grand secret du langage pour triompher de Macron à Pâques, j'avais dit, mais encore plus, de triompher de la magie noire. C'est-à-dire que dans le candidat en particulier qui se battait contre ce qu'il a appelé le grand remplacement et compagnie, c'est-à-dire que en fait, il n'y a pas de remplacement au sens où il entend, c'est une substitution. C'est-à-dire qu'il y a une inversion. Et l'inversion, elle n'est pas. On peut voir certaines choses dans l'immigration, autre chose, mais il faut monter beaucoup plus loin. Il ne faut pas rentrer dans les cases mosaïques blanc ou noir. Il faut remonter au principe qui est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que comment vaincre? Simplement en montrant comment les choses ont été installées dès le départ dans une magie, et cette magie d'inversion qui a détruit la France et qui a placé l'Angleterre, le monde anglo-saxon, à la place de la France, qui a remplacé. On peut dire d'une certaine manière que Versailles avait remplacé, c'était l'ambition de Louis XIV, Rome, mais en tout cas, c'est Londres, la City, la finance qui a remplacé, si vous voulez, le verbe au sens. Voilà. Bon, voilà, donc on arrive, et on arrive à cette chose qui est terrible, initiation numéro 6, c'est le choix de Caïphe, si vous voulez, il a à choisir entre la vérité et le déicide, et il choisit la déicide. Alors, le problème du déicide, on peut le voir à plusieurs niveaux, mais vous avez, donc vous prenez par exemple le nôtre qui était jardinier. Alors, qu'est-ce qui se passait dans la tête? Alors, évidemment, l'anti-école anti-républicaine vous dit que Louis XIV était prétentieux, etc. Mais qu'est-ce qui se passait dans la tête d'un Lenôtre qui a fait ce superbe jardin de Versailles? Eh bien, ce n'était pas le service du roi. Quand vous allez à Saint-Roch, à l'église Saint-Roch, où il y a eu la mitraille de Napoléon d'ailleurs, eh bien, qu'est-ce que vous voyez si vous êtes sur la pierre tombale disons, de Lenôtre, il y a marqué à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que l'homme de l'ancien temps qui a fait la merveille de cette merveille de la France, il était hanté par la gloire de Dieu. Et maintenant, nos contemporains sont hantés par quelle gloire? Ben, la gloire de leur nombril. C'est l'effet que nous voyons actuellement sur la tête. Alors, on veut passer maintenant, parce qu'il faut avancer peut-être, sur. Et nous sommes dans cette choix où nous choisissons la vérité ou le déicide. Et celui qui ne choisit pas le déicide, mécaniquement, la vérité choisit le déicide. Alors, dans le septième, évidemment. C'est qu'après, vous avez donc, si vous voulez, de l'élection du Messie roi mis en procès au choix de, finalement, au martyr, au choix si vous voulez, du blasphème, blasphème et du martyr. Et donc, c'est l'étape suivante, on peut peut-être avancer. Et donc, si vous voulez, vous n'avez pas le choix. Et ce que je révèle, c'est que, on va accélérer peut-être un petit peu, c'est que vous avez cette force de la croix, si vous voulez. C'est-à-dire que la croix, en théologie, évidemment, c'est un instrument de supplice qui paraît, évidemment, qui n'est pas très, très galvanisant, si vous voulez. C'est évidemment, ça paraît comme comme un instrument. Et ce qui est très frappant, c'est que la civilisation française, qui mettait, il existe encore des croix, si vous voulez, à toutes les croisées de chemin, justement, rappelait à nos ancêtres ce qui nous est interdit par la République maçonnique, c'est que nous mourrons. Ce qui était très frappant dans cette épidémie, c'est qu'on cache, vous savez, le grand secret, c'est qu'on cache aux Français qu'ils vont mourir. Alors les gens vont mourir, mais non. Mais non, ils ne le savent pas. Parce que savoir qu'on va mourir, c'est en tirer les conséquences. C'est-à-dire, on vous raconte que l'homme a été créé il y a 500 millions d'années, je ne sais pas quoi, enfin, tout un ensemble de trucs. Donc, on vous noie le poisson, mais on n'est même pas capable d'expliquer comment une graine fait un arbre. Ça, aucun scientifique n'est capable de l'expliquer. Comment se fait-il qu'on n'invente pas de graines? Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est. Bon, on pourra y revenir. Mais le monde ancien, toutes les civilisations, moi, j'ai vécu avec les cannibales, j'y croyais, il a fallu attendre la crétinisation maçonnique de masse pour faire aveugler les hommes, et là on retombe sur la question du diable, l'aveuglement du diable, pour leur cacher qu'ils vont mourir. Alors on leur fait croire qu'ils sont toujours jeunes, qu'ils pourront être éternels, que la médecine va trouver quelque chose, mais non, ils y passeront tous. Tout le monde va y passer, si vous voulez. Tout le monde va y passer. Alors, si vous savez dans un train quelle est la destination, eh bien effectivement, vous n'avez pas la même vie. Et toute la société, le modèle français, donc le modèle que veut détruire la franc-maçonnerie, évidemment, la haine du modèle français, c'était d'organiser la vie en tenant compte de tous les éléments. C'est-à-dire, on est jeune, puis après on est moins jeune, et puis après on est vieux et on meurt. Bon. Et après, évidemment, il y a la question de la vie après la mort qui se pose. Et donc, ça change tout. C'est-à-dire, d'abord, pour la moralité, pour la manière d'organiser sa vie, maintenant, on vous montre que des jeunes, en bonne santé, tout le monde est beau, tout le monde va bien. Et les médias ont caché, hein, parce qu'on vous parle beaucoup de l'Ukraine, mais l'agonie des gens qui sont morts seuls dans les EHPAD et compagnie. Alors on a un tout petit peu parlé, mais ça on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'ils vous cachent la destination finale. Et alors effectivement, Hassan II d'ailleurs l'avait très bien dit, il a dit, mais jamais nous n'accepterions que nos personnes âgées meurent comme ça. Et c'est un chiffre qui était même donné récemment par un des... Si vous voulez, à des mercenaires des médias qui disaient 85% des Français voudraient mourir chez eux. Eh bien, la démocratie, ça serait peut-être de leur permettre. Mais ça, c'est pas possible parce que la société, enfin, pas possible, ça serait possible, mais est organisée pour nous mettre dans des boîtes. Je parlais du pavé mosaïque. Chacun est dans une boîte, l'enfant est dans une boîte, le plus jeune est dans une boîte, c'est la tranche 10, 15 ans, 15, 20 ans, etc. Chacun est dans sa boîte. Et avec le basson au milieu qui passe le lien, qui décide, et les gens ratent complètement leur vie, c'est complètement. Bon, bon. Alors après, il y a le transhumanisme qui nous fait croire que nous sommes éternels sur Terre, et donc la fameuse réflexion sur la société n'existe pas. Et donc en mettant, on verra après, mais ça j'en parlerai après. La question, c'est comment juger? C'est-à-dire que vous avez trois offres, c'est ce que je dis. Il y a eu l'Ancien Testament. La première alliance dont nous pourrions parler, J'entendais Bernard-Henri Lévy parler, mais personne, c'était sur CNews, n'osait lui poser la question qu'il fallait lui poser. C'est-à-dire qu'actuellement, personne n'ose dire tout simplement les choses. C'est-à-dire qu'en gros, ce que disait Bernard-Henri Lévy, c'est ce qui compte dans une plante, c'est pas les racines, mais c'est les branches. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de branches, s'il n'y a pas de racines, on ne voit pas comment les branches tiennent. Alors, il s'en tirait par ses belles formules, les idées dans le ciel, etc. etc. Mais moi, j'ai dit sans crainte, sans peur et sans reproche, dans mon livre Le syndrome de l'ortolan, que j'ai parlé du modèle israélien qu'il fallait peut-être suivre dans certaines choses. Bon, voilà. Donc, lui prétend qu'effectivement, les racines, ça ne compte pas. Pourquoi? Bon, ça, ce n'est pas le sujet actuellement. Bon. Mais la grande question qui se pose, c'est si on considère que la théologie, c'est vraiment là que se tient la politique, la théologie politique, c'est-à-dire que la politique dérive toujours, toujours, toujours d'une théologie, la laïcité nous cache que le Saint des Saints, c'est la théologie, là c'est la théologie maçonnique, qui est un copier-coller, si vous voulez. Bon, eh bien, donc il faut se poser la question de la première alliance. Alors, effectivement, il y a un livre que je lis qui est tout à fait passionnant, de Jules Isaac, qui a écrit Le Christ et Israël, évidemment, donc vous pourrez rentrer dans les détails, mais là on voit très bien effectivement que la théologie domine, et il est très embarrassé par certains mots. Ce n'est pas le sujet d'en parler maintenant, parce que nous sommes dominés par les phrases, gouvernés par les phrases et par les mots, donc par un langage, et dans ce langage, c'est la doctrine du langage qui domine le langage. Donc ce sont les principes théologiques qui domine en positif ou en négatif. Et donc, il y a la première alliance.
Vous parlez de ce jeu d'inversion théologico-politique, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et alors, parce que je vous dis, il y a deux cases. C'est ça l'embarrassant. Alors, vous pouvez être entre les deux cases dans certains cas, le en même temps, mais en fait, vous prenez un dictionnaire, n'importe quel dictionnaire, vous verrez, quand il est bien fait, vous avez ben, le mot, et puis en bas, vous avez antonyme. Vous voyez? Beau, laid, etc. Jour, nuit. Donc, il y a toujours un mot, il y a toujours le mot, non pas contradictoire, mais il y a le contraire. Bon. Et donc, il y a la deuxième alliance, qui est l'alliance du Christ. Alors, la question que posait évidemment Jules Isaac, du fameux Isaac, c'est effectivement, est-ce que la nouvelle alliance a annulé l'ancienne alliance? Ce n'est pas le sujet, mais c'est une des questions. Il y a la troisième alliance, que je révèle en quelque sorte, c'est l'alliance des droits de l'homme. L'alliance des droits de l'homme a annulé la deuxième alliance. Alors, on pourrait en parler plus longuement, mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut départager, finalement, la religion maçonnique de la religion chrétienne? Comment faire? Bon, et c'est tout l'objet de la suite qui n'est pas encore donnée, c'est, et non pas de, ne pas jouer en pour ou contre. Parce que dans le pavé mosaïque, outil noir contre blanc, non, non, non. C'est-à-dire, le génie maçonnique, si je peux dire, c'est de dominer les deux. C'est de passer, de transcender les deux, pour conclure. Donc, si vous voulez faire un choix entre les trois alliances, j'allais dire que j'en donnerai une quatrième, enfin, nous verrons tout ça si ça se fait sous cette forme, mais il faut être irréfutable. C'est-à-dire qu'il faut trouver des critères qui permettent de séparer le bon grain de l'ivraie, si je peux dire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Bon, l'absurdité du débat démocratique, c'est prétendu démocratique, c'est qu'il est totalement antidémocratique d'une part, et il est fait pour ne jamais conclure. Parce que si vous avez la droite et la gauche, ben, ça ne veut rien dire. Donc, ça veut dire qu'il y a autre part un pouvoir, si vous voulez. Il y a un pouvoir quelque part qui, comme je vous l'ai dit, c'est le lion, c'est le maçon, c'est la maçonnerie, c'est la chaîne du lion qui le fait.
Juste
Alors.
une petite aparté, monsieur Upinski, parce que j'ai discuté avec des gens qui se sont d'ailleurs rapprochés de moi et qui sont dans la franc-maçonnerie. Il y en a certains qui disent que bon, il y a différents courants dans la franc-maçonnerie, Memphis, Misrah et la loge du Grand Orient. Et il semble que la loge du Grand Orient ait plus d'influence sur la politique. L'autre serait plus ésotérique. Comment il faut mettre ça dans l'équation?
D'abord, il n'y a pas maçon et maçon. Quelqu'un qui est dans la maçonnerie, il faut le savoir s'il est dans le, si vous voulez, sur le perron, s'il est au premier étage, etc. Bon, il n'y a pas maçon ou pas maçon, c'est ce que je disais. Les maçons, et là, ce n'est pas le moment d'en parler, il y a des degrés, si vous voulez. C'est comme dans une entreprise. Si vous avez le balayeur qui dit je suis dans une multinationale, bon, c'est tout à fait respectable, mais ce n'est pas lui qui décide et ce n'est pas lui qui sait tout. Bon, donc un maçon, ça veut rigoureusement rien dire. Bon. Mais par rapport à ce que vous dites, dire. Faire croire qu'il y a une diversité maçonnique, c'est d'avoir rien compris à ce que c'est que la maçonnerie. Bon, que le Grand Orient de France, si vous voulez, ne reconnaisse pas ou pas Dieu, etc., tout ça, c'est exactement comme les. Je vais prendre une comparaison, une comparaison, c'est les ordres religieux. C'est comme de dire que l'Église catholique était divisée parce qu'il y avait plusieurs ordres religieux, les dominicains, les franciscains, les jésuites. C'est exactement du même ordre. Alors vous me direz, ah non, c'est différent parce qu'il y en a qui croient à Dieu. Bon, tout ça sera vu en tout temps. Mais la vérité, c'est justement l'objet de ce que je fais, c'est de montrer effectivement que dans son principe, il n'y a qu'une maçonnerie. Et elle est dans sa finalité qui n'est jamais révélée aux maçons. Et c'est ça le jeu. Parce que dans. J'écoutais Éric l'Ermite, qui est un matheux, c'est le, bon, qui a écrit Les Ripoux et compagnie, qui a fait Les Ripoux. Et il disait qu'il aime les mathématiques parce qu'il disait c'est une énigme permanente. Bon, et les mathématiques, c'est une énigme à chaque fois. Et là, je traite la maçonnerie, qui a un rapport très fort avec la maçonnerie, puisque je vous rappelle que les gens ne comprennent pas que dans la maçonnerie, c'est ce qui est visible, c'est l'équerre et le compas. Les deux outils de base qui sont révélés, ce sont des outils géométriques. Bon, donc c'est important. Et donc, on doit, si vous voulez, régler l'énigme de la maçonnerie par justement sa propre méthode, qui est la méthode Morée géométrico, à la méthode bon. Donc, c'est ça. Et c'est ça le but. Donc, c'est une énigme qui doit être révélée de ce type. Donc, et là, actuellement, j'ai dépassé la huitième étape et j'en suis à neuf. Donc, j'ai dépassé les huit que j'avais annoncées et j'en suis à deux. Mais il faut être irréfutable, c'est ce que je vous dis. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre la maçonnerie. Et il suffit de lui enlever son masque, si je peux dire. Et à ce moment-là, tout le monde peut juger. Parce que, effectivement, j'ai parlé de transparence. Il est évident que si la franc-maçonnerie, si vous voulez, ne s'affiche pas telle qu'elle est, c'est-à-dire que les religieux, ben on sait qu'ils sont religieux, tel ordre, eh bien c'est quand même, alors ils disent qu'ils n'ont rien à cacher, bien entendu, mais ils ne savent pas eux-mêmes très bien ce qu'ils ont à cacher. Mais il est évident que si au gouvernement, il était bien indiqué quelles sont les affiliations, eh bien effectivement, ça ferait un peu bizarre. Bon, ça ferait un peu bizarre. S'il y avait une parité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas qu'il y ait plus de maçons, disons, qu'au gouvernement que leur proportion. Et à ce moment-là, tout s'écroule parce que ce sont les initiés qui savent faire marcher la machine. Et comme je vous ai dit, le grand paradoxe, c'est que les maçons qui ont voulu, les fameuses lumières dont vous parlez, qui ont voulu nous apporter les lumières, eh bien, depuis que les lumières sont arrivées, tout s'éteint. C'est-à-dire que la France était un pays que tout le monde admire. Je pense à Bernard-Henri Lévy, justement, qui rappelait que l'Autriche-Hongrie, qui a été détruit évidemment par la maçonnerie. Bon, c'est une évidence, enfin, c'est une évidence, c'est une réalité. Eh bien, il disait que même 70 ans y est allé, après la fin de l'Empire d'Autriche-Hongrie, il y avait une grande nostalgie. Grande nostalgie. C'est-à-dire que cet empire était bienfaisant, c'est ce qu'il dit. Pourquoi était-il bienfaisant? Parce qu'il avait des principes, évidemment, bienfaisants. Mais il n'est pas allé jusqu'à dire qu'il y a en France une grande nostalgie de la royauté. Il y a une grande nostalgie, c'est comme l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ça a été détruit par les mêmes méthodes. Hein, bon. Et le peuple, justement, n'a pas accepté parce qu'il a une nostalgie, et en tout cas en ce qui concerne la France, Talleyrand disait bien, celui qui n'a connu cette époque, c'était avant la Révolution, n'a pas connu la joie de vivre, la joie de vivre. C'est-à-dire que la maçonnerie nous a enlevé la joie de vivre, a introduit les divisions, a introduit tout ce qui nous fait actuellement que la vie devient de plus en plus insupportable, parce que la haine du modèle français, je vous rappelle que la franc-maçonnerie, c'est trois haines, la haine de Dieu, la haine du roi et la haine du peuple.
Alors, vous qualifiez les francs-maçons persécuteurs plutôt que
Ah
persécutés, le secret étant une couverture d'activités immorales et sectaires.
oui, tout à fait, tout à fait. Alors, le mot sectaire ne plaît pas, mais c'est évident que c'est une sectaire. Sectaire, c'est se séparer. C'est-à-dire que c'est la question de l'unité, c'est une question d'ailleurs maçonnique. C'est que cette division, déjà, la division la plus insupportable, le plafond de verre, c'est entre les initiés et les cons, si vous voulez, qui sont les Français, Français cons, bon, et la confraternité. Et en plus, la maçonnerie, vous avez posé la question, elle est complètement segmentée pour diviser, pour régner. Déjà, les degrés. Et puis, vous avez la haute noblesse, entre guillemets noblesse, je peux dire, ou l'antinoblesse. Vous avez effectivement le rite écossais, vous avez le. Bon. Mais en tout ça, il y a, je veux dire, il y a un même sang, il y a un même ADN. Mais il est évident que quand vous prenez, par exemple, les loges dans l'Empire britannique, les loges militaires, c'est un outil de gouvernement extraordinaire. Dès que vous avez l'armée britannique qui arrive quelque part, elle fonde une loge, elle associe les habitants. Enfin, c'est extraordinaire comme moyen. Bon, moi, vous prenez la méthode britannique, les Français ne le savent pas. La méthode maçonnique est pythagoricienne, évidemment. Bon, il y a tout un débat auquel participe, d'ailleurs, de manière assez intéressante, disons que quelqu'un que je nommerai tout à l'heure. C'est que la pénétration, les gens sont flattés. Marie-Antoinette disait que tout le monde en était de la franc-maçonnerie avant la Révolution. Donc on flatte, On donne de l'importance, on donne un code. Le langage maçonnique, par exemple, le secret, c'est de connaître le langage. Je vous ai donné un des secrets, c'est le pavé mosaïque. C'est une méthode d'action, une méthode qui marche très bien. Vous allez n'importe où, vous repérez quelles sont les dalles blanches, quelles sont les dalles noires. Et puis, vous dites comment est-ce que je peux être le lien entre les deux? Bon, voilà, donc c'est une méthode de gouvernement. Bon, la conciliation des contraires. Bon. Alors, après, on arrive à. Je veux dire, si je me suis lancé dans ce dévoilement de la franc-maçonnerie, c'est parce qu'il y a un maillon manquant. C'est-à-dire que quand vous regardez la société actuelle, vous dites, c'est quand même incroyable. Personnellement, j'ai essayé de. Enfin, je me suis appliqué à révéler certaines vérités. Par exemple, la destruction d'enseignement. Je l'ai fait dès 1977. 2 plus 2 égale 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. J'ai annoncé la société de l'informatique, j'ai annoncé la destruction de l'intelligence, j'ai annoncé qu'il y avait un plan de société, si vous voulez, ce qui était le meilleur des mondes à la George Orwell. J'ai tout décrit. Comment se fait-il que ce ne soit pas devenu une vérité publique? Et ça, je l'ai fait en permanence. Dans Maastricht, en 1992, j'ai révélé que ce qui s'appelle la construction européenne ferait l'inverse de ce qu'elle avait promis. Bon. Lorsque j'ai pris la présidence de l'ERAMA, Alliance internationale pour la reconnaissance des apports de Maurice Allais, qui était protectionnisme, intelligence, si je peux dire, eh bien, même Maurice Allais a été complètement censuré. Il disait, je suis téléspectateur. C'est-à-dire que notre prix Nobel, il y en a maintenant un second, mais qui n'est pas du même cru, si j'ose dire, eh bien, il ne pouvait pas se faire entendre. Il a un peu passé au figaro. Pourquoi? Ben, si, il y a une équation, on se dit, mais comment se fait-il que dans cette société qui se prétend ouverte, démocratique, etc., etc., on ne puisse pas faire entendre une vérité. Moi, par exemple, je suis totalement censuré. Bon, c'est tout à fait inimaginable. Bon, comment ça s'explique? Il n'y a pas que moi, mais bon, c'est qu'il y a une équation manquante, il y a un maillon manquant, c'est comme dans l'évolution, quand on dit. Et le maillon manquant, ça s'appelle la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est visible, mais quand vous regardez ce qui est visible, c'est comme en science, vous ne pouvez pas vous expliquer ce qui est visible par les lois raisonnables. Donc, c'est qu'il y a une équation, il y a un maillon manquant. Et ce maillon, c'est la maçonnerie, et plus que la maçonnerie, c'est le langage maçonnique qui vous permet justement de passer à travers les mailles du filet. Alors, effectivement, les maçons, des signes de reconnaissance, enfin, il n'y a pas que Guernon, mais ils ont un langage
Vous
et
parlez
ils.
aussi, excusez-moi, d'un kaléidoscope d'immoralité sous les masques de la philanthropie, c'est ça?
Très bien, je vois que vous avez bien lu. Oui, alors justement, ce qui est génial, c'est le crocodile qui a un masque de philanthropie. C'est-à-dire que dès que vous avez compris que c'est l'inversion, quand vous voulez détruire votre ennemi, alors il y a une manière qui était la manière bête, un con, si je peux dire, excusez-moi, je me répète, c'est vous arrivez comme les Allemands, un casque à pointe, vous arrivez, mais ça c'est idiot. Bon, la méthode anglaise, c'est la méthode des services secrets, qui vient d'ailleurs des Vikings. C'est-à-dire que depuis Élisabeth Ier, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que l'homme est dirigé par son cerveau, le cerveau par une information, et si vous contrôlez ses idées, vous contrôlez la personne. Donc c'est bien plus intelligent d'agir par les services secrets, je pense au LCS par exemple de Churchill, que d'attaquer frontalement et bêtement. Bon, et vous agissez d'ailleurs avec les fameux damiers mosaïques. En agissant sur les populations locales, enfin, pour dire, et donc sans tuer vos troupes. C'est-à-dire que l'astuce, enfin, c'est la stratégie britannique, on pourra en parler, c'est évidemment d'intervenir au dernier moment et de s'arranger pour que ce soit vos alliés qui meurent. Et à la fin de la guerre, vous êtes encore tout frais, vos alliés sont tellement épuisés que vous gagnez le traité de Versailles, par exemple. Le traité de Versailles, c'est un traité qui a été imposé par Wilson, bon, et qui préparait la Deuxième Guerre et l'invasion de l'Europe. Donc l'invasion de l'Europe, c'est fait au nom de la liberté. Et sur les cartes britanniques, disons que c'est pour ça que De Gaulle n'a jamais voulu participer au débarquement, enfin, à la commémoration, c'est que ce que nous appelons libération, ben, les Anglais l'appelaient invasion, invasion. Voilà. Et donc, ce petit peuple, si vous voulez, une chose très importante, vous prenez le rôle de la franc-maçonnerie, de la Constitution, évidemment, des États-Unis, c'est tout à fait prodigieux, mais ils ont une intelligence. Ils sont capables de façonner le monde. Hein? Ça, c'est tout à fait. Kissinger l'a très bien dit dans son livre Diplomatie, nous avions des élites, comme on les appelle, qui étaient capables de façonner le monde moderne. Et quand vous écoutez nos hommes politiques, ils ne façonnent rien du tout. Ils n'ont plus rien dans la tête. Et la maçonnerie, évidemment, est une prodigieuse école d'intelligence, si je veux dire, intelligence maligne peut-être, mais d'intelligence, de méthode, de gouvernement, de compréhension, de politique, je dirais même de théologie négative, et celui comme Talleyrand, qui a cette connaissance théologique maçonnique, si je peux dire, mais vous avez assez, eh bien, il domine le monde. Et les États-Unis, qui n'étaient rien lorsque la France était tout, eh bien maintenant, ça s'est inversé. Comment? Parce qu'ils ont une méthode. Ce sont des hommes comme les autres, les WASP, si vous voulez. Et donc, la puissance anglo-saxonne tient à la maçonnerie, ce qui fait la supériorité. Vous prenez, c'est lorsque la France dominait le monde jusqu'à la mort, pas tout à fait, enfin, jusqu'à la Révolution anglaise, je dirais 1689, et c'est 1688, 1689. Bon. Donc, et alors là, il y a eu, bon, on pourrait parler de la politique de Louis XIV, mais la puissance de l'Angleterre, qui était un tout petit pays, qui était quatre fois plus, trois ou quatre fois moins nombreux que la France, comment est-ce qu'elle pouvait faire face? Parce qu'elle avait une méthode, et à partir de 1717, vous avez auparavant la Grande Loge d'Angleterre, etc., la Banque d'Angleterre, vous avez tout à coup cette puissance qui domine, et je veux dire, le bras caché de l'Angleterre, c'est la maçonnerie, qui inonde le monde et qui lui permet, la reine d'Angleterre, elle est toujours reine, il faut remarquer. C'est-à-dire que la mère des démocraties, c'est encore une royauté, cherchez l'erreur. Bon. Et elle domine encore, elle est la reine de tout un ensemble d'États du Commonwealth. Alors que nous, si j'entends par nous les Français, nous ne sommes même pas arrivés à garder certains pays qui voulaient rester avec la France. Donc, ils ont une intelligence, parce que je dis qu'il faut réarmer l'intelligence, mais comprendre la maçonnerie, c'est le message que j'enverrai à l'éditeur, mais comprendre comme je l'enseigne, et non pas comme tous ces 20 livres qui ne vous mènent à rien, sinon à ne rien comprendre, eh bien, c'est une école d'intelligence en théologie négative, mais la théologie négative, si vous l'inversez, vous redevenez dans la vérité de la théologie positive. Voilà. Donc ça, effectivement, et j'ai le regret de dire que le travail que je fais n'a jamais été fait ni par l'Église, ni par les papes, ni par les religieux, ni par les politiques, ni par personne. C'est tout à fait étonnant. Personne ne l'a fait. Et je tiens à le dire, vous prenez la lecture des droits de l'homme. J'ai commencé à le faire tout à l'heure. Alors vous regardez, le naïf, il passe devant, il dit c'est merveilleux, j'ai tous les droits, même le droit à la pression. Je vous rappelle, quand vous êtes arrêté par un policier, si vous résistez, hein, évidemment, c'est rébellion. C'est-à-dire que dans les droits de l'homme, on dit que vous pouvez vous rebeller, mais non, vous pouvez vous rebeller tous ensemble quand c'est décidé par le chef. Mais si vous vous rebellez à titre individuel, à ce moment-là, vous êtes traité comme un chien. Bon, voilà. Bon, ça, c'est une chose importante. Mais quand vous prenez les droits de l'homme, alors il faut prendre, j'ai vite tapé sur Internet, la Déclaration des droits de l'homme, et donc qui fait foi sur l'annonce aux provinces à partir du vote du 26 août 1789, donc décrété par l'Assemblée nationale et donc accepté par le roi. Donc la date qui compte, c'est accepté par le roi, puisque c'est le pouvoir qui va se démettre. Donc ça, c'était le 6 octobre. Eh bien, quand vous regardez, vous avez en bas le texte. Bon, déjà, je vous ai dit que l'école de la République étant une école d'illettrés, on a appris aux gens de ne pas lire. Donc personne ne l'a lu. Bon. Mais je vous ai montré que ça vous promet la liberté, mais ça vous applique l'inverse, l'obéissance servile à la loi, un masque, geste barrière et compagnie. Bon. Mais quand vous regardez au-dessus, là, vous avez le langage symbolique. Mais évidemment, à l'école, on ne vous apprend pas le langage symbolique puisque c'est réservé pour les initiés. Bon. Eh bien, là, vous voyez un triangle. Et le triangle, c'est le triangle lumineux. Et ce que je révèle, et ce que je n'ai jamais vu nulle part, c'est que ce que veut dire ce langage du triangle. D'abord, c'est le double langage. C'est-à-dire que le naïf, le chrétien, il a vu sur les autels ce triangle lumineux qui représente la Trinité, donc le Dieu en trois personnes. Bon.
Vous
Donc, il va y
l'appelez aussi
avoir.
delta lumineux, c'est ça?
C'est le delta lumineux, on peut dire delta lumineux, triangle lumineux, delta lumineux. Alors, delta, c'est la lettre grecque, là encore, on peut en parler. Mais l'initié, on lui apprend, c'est ce que je révèle dans mes initiations, dans le 9e degré d'initiation, c'est que, en fait, ce triangle, c'est comme si vous aviez les fleurs de lys, qui signifieraient la royauté, là, ça signifie la franc-maçonnerie. C'est le résumé de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que les droits de l'homme qui ont été donnés, c'est la charte en quelque sorte qui a été concédée aux Français par les révolutionnaires, c'est la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que la filiation de la déclaration des droits de l'homme, elle est maçonnique. C'est-à-dire que ce n'est pas les tables de la loi qui ont été données à Moïse, si vous voulez, c'est les nouvelles tables de la loi de la Troisième Alliance qui fondent les nouvel évangile de la République se disant française. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous avez tout un ensemble de gens qui ont dit est-ce que c'est la franc-maçonnerie qui a fait la révolution, etc. Ils l'ont pris par le mauvais côté. Évidemment, les francs-maçons ont beau jeu de dire mais non, c'est pas nous. Bon, ceci dit, le nombre de loges qu'il y avait, je donne le chiffre. disons qu'un réveil de la révolution est quand même tout à fait hallucinant. Mais ils ont beau jeu de dire, il n'y avait pas un état-major banal comme l'état-major allemand qui commandait, ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est la révolution, je l'ai dit depuis très longtemps, c'est un fait de langage. Ce ne sont pas tant les maçons physiques, c'est le langage. Et là, vous retrouvez l'alliance, évidemment, avec l'Angleterre. C'est-à-dire que c'est bien le langage maçonnique qui a fait la révolution, c'est incontestable puisqu'ils l'ont signé. C'est signé sur les droits de l'homme. Et quand vous pensez que 2 siècles plus tard, plus de 2 siècles, personne n'a jamais dit, c'est ce que j'ai révélé, c'est une révélation révolutionnaire. C'est bien, nous sommes dans un régime qui n'a pas été fait par le peuple. Le peuple ne parlait pas français à l'époque. Il parlait les patois, donc, que la République a détruit, hein, je vous rappelle. Et donc, la langue française, c'était la langue du roi, et donc la langue des juristes, la langue notamment des francs-maçons, et effectivement, les droits de l'homme écrits en français, c'est le cadre religieux, c'est le nouvel évangile qui est signé franc-maçonnerie. Alors à partir de ce moment-là, on est sur une autoroute. C'est-à-dire que c'est ce que j'explique, c'est comment la maçonnerie qui avait imposé son évangile est le nouveau clergé de la République et domine toute la vie de la République, en particulier toutes les lois sur la famille et compagnie. Voilà. Et donc là, on est sur l'autoroute et ça ne se discute pas. On ne peut pas. La question, ce n'est pas d'être pour ou contre, c'est d'expliquer finalement que c'est par la maçonnerie, le bras armé de l'Angleterre notamment, que les Britanniques, les Anglo-Saxons ont abattu la France plus bas que terre actuellement. Et Macron, évidemment, le bon symbole, puisqu'il nous vient directement de l'Angleterre. Alors vous avez notamment deux bras, il y a l'armée britannique, évidemment, il y a la flotte britannique, et puis effectivement, il y a aussi la franc-maçonnerie et la finance. Voilà. Et comme ils contrôlent le langage, l'Angleterre, c'est le royaume des flux. Bon, ils contrôlent les flux financiers, les flux d'information, etc., etc. Et la maçonnerie, effectivement, leur permet d'être comme Macron, de prendre toutes les formes. Vous l'avez dit vous-même, ça sera la forme du Grand Orient, la loge mixte, etc. C'est bon, il y a toutes les formes, évidemment, mais qui ne sont que les bras d'une seule pieuvre, si vous voulez. La pieuvre a plusieurs bras, mais c'est quand même une seule pieuvre. Voilà. Et donc, regardez.
Juste en aparté aussi, une autre remarque que j'ai eue d'un franc-maçon, c'est que laissant entendre que vous avez une influence catholique et plutôt conservatrice, qu'est-ce que vous auriez à répondre à ce type de
Ah oui,
remarque?
si j'ai bien compris ce que vous dites, ils disent que dans la franc-maçonnerie, il y a une influence conservatrice et catholique. Ben, je vous renvoie, il faut des. Ah, parce que, une chose que je précise, il est évident que le plafond de verre, il n'y en a pas qu'un. C'est-à-dire qu'il y a le plafond de verre entre les initiés, en gros, et les cons qui sont les Français, si vous voulez, qui se croient citoyens. C'est le gag. Quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle citoyen, il n'a aucun pouvoir. Un citoyen à Rome avait quand même. Était respecté déjà, ce qui n'est pas le cas. Mais il est évident que la franc-maçonnerie a été divisée pour coller au terrain. Effectivement, vous avez besoin, il y a des plafonds de verre, c'est-à-dire que le maçon du degré inférieur ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Bon, c'est un empilement de plafonds de verre. Et là-dedans, évidemment, comme vous rentrez partout, c'est comme si vous disiez dans la franc-maçonnerie, il y a des Indiens, bien entendu, il y a des Africains, bien entendu, il y a de tout dans une armée. Mais c'est pour coller au terrain. La question, c'est qu'il y a une certaine diversité, une variété, une diversité, mais l'esprit est le même. Et c'est l'esprit qui domine la matière. Voilà. Et donc, vous n'avez qu'une seule maçonnerie. Et si vous avez des choses qui apparaissent comme différentes, ça obéit. C'est comme vous avez dans l'ex-armée française, vous aviez des Spahis, vous aviez des Sénégalais, etc. Il n'empêche que c'était la même armée française.
Alors, vous dites qu'il faut une immense haine et perfidie pour détruire l'âme d'un peuple au nom du plus pur humanisme. Qu'est-ce que vous pensez, de...
C'est très clair, c'est-à-dire que c'est ce qui est très très clair, c'est que quand vous prenez les résultats, vous voyez que la France n'a plus qu'une âme. Bon, liberté, égalité, fraternité, ça ne vous donne plus d'âme. C'est-à-dire que on peut dire la France a une âme, il y a une très belle image de cette âme, parce que la France préservait les libertés. Je l'ai dit, c'est Machiavel qui le dit. La France, il suffit d'ailleurs de se promener, vous voyez les maisons, vous prenez les villages. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'il y avait une très grande, je veux dire, variété et non pas diversité. La diversité divise, la variété unit. Il y a une très grande variété dans les villages, dans les costumes, dans la manière de s'alimenter, etc. Mais vous aviez un esprit qui était le même, qui était cet esprit qu'on pourrait appeler français, qui était le lien royal. Et il y avait une très belle image, parce que maintenant, il y a les médias, mais lorsque vous aviez le dauphin, par exemple, qui naissait, eh bien, vous aviez toutes les cloches qui carillonnaient. C'est ce qui s'est fait, je vous rappelle, pour le 11 novembre 1918. Mais disons qu'il y avait une âme, et cette âme, évidemment, ce n'était pas la franc-maçonnerie, c'était la catholicité, et c'était, si vous voulez, le culte du roi, si je peux dire le culte au bon sens du terme, c'était le respect du roi qui était le lien entre tous. Et le roi a été remplacé par la loi, mais la loi n'a pas d'âme, alors que le roi, effectivement, c'était une famille à laquelle on s'identifiait. Et l'image, tout le monde peut la comprendre, c'est la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, qui est une potiche, qui n'a pas le droit de parler, qui agite la main, eh bien, même en étant potiche, en ne disant rien, en répétant ce qu'on lui dit, eh bien, vous avez tout un peuple qui a une dévotion. Donc, c'est l'image de ce qui nous a été volé, parce que je vous rappelle en particulier que le God Save the Queen, ça a été copié aux Français. C'est lorsque le roi Louis XIV était mourant, il y a Fac Salvem Regem, c'était qu'il y a une musique qui a été faite, et comme les Anglais sont des pillards, je l'ai dit, des voleurs, effectivement, ils nous prennent tout et nous le revendent. Et le God Save the Queen, c'est un chant français traduit en anglais. Voilà. Donc c'est vraiment une farce, si vous voulez, et on est sur le diable et le singe de Dieu, on est dans une singerie, et ce qui est très drôle, si je peux dire tragiquement drôle, c'est de voir des Français qui disent « c'est merveilleux la reine d'Angleterre », mais c'est quand même soit les Anglais qui ont fait couper la tête du roi Louis XVI, parce que l'exécution de Louis XVI, la décapitation, est un rite. Il faut bien croire que c'était un rite. Hein, c'était pas personne. C'était effectivement un acte symbolique qui effectivement venait effectivement d'Angleterre, qui, je vous rappelle, a montré l'exemple avec Charles Ier.
Alors, on arrive doucement à la fin de cette interview. Vous prenez un retour de la Deuxième Alliance, c'est-à-dire de replacer Dieu, la vérité et le bien en haut de la pyramide, et de déloger les imposteurs, les menteurs et ennemis de Dieu et des Français, les francs-maçons. Quelle est la manière la plus efficace de s'y prendre? N'y a-t-il que le langage?
Vous faites un raccourci, là. L'idée, c'est... Quand je dis revenir à la Deuxième Alliance, ce n'est pas une opinion. Ceux qui ont fait une reprise d'entreprise, qui m'écoutent, vont comprendre ce que je veux dire. Quand vous avez une société qui est agonisante, je parle de la société française, bon, qui ne ressemble plus à rien, il n'y a plus rien, c'est normal. La déconstruction, à force de déconstruire, il ne reste plus rien. L'école a été détruite, la foi a été réalisée, et vous avez justement d'autres personnes qui ont une foi. Bon. Quand vous prenez les sujets un par un, désindustrialisation, abêtissement, etc., etc. Bon. Eh bien, c'est comme pour la santé. Lorsque vous êtes malade, vous dites, tiens, depuis quand est-ce que je suis malade? Et si vous constatez que quand vous mangez autrement, vous agissez autrement, vous êtes en bonne santé, eh bien, vous revenez à l'état précédent. C'est-à-dire, dans une entreprise, quand vous reprenez une entreprise, si vous voulez sauver l'entreprise, vous enlevez tout ce qui n'est pas le cœur de métier. Vous gardez le cœur de métier et vous partez avec. Et là, le cœur de métier de la France, il est évident, le modèle français, il est évident, je la joue courte parce que je compte faire un jour quelque chose sur ce sujet, mais c'est le modèle qui a été abattu à la Révolution, et encore par un abêtissement extraordinaire, parce que je rappelle que dans les mairies, vous avez un bonnet phrygien, et ce que veut dire ce bonnet phrygien, c'est que nos ancêtres étaient des esclaves. C'est-à-dire que la République nous a apporté la liberté, c'est quand même à se tordre de rire, alors qu'elle nous a apporté l'esclavage. Quand vous regardez une pièce de Molière, et Molière, finalement Molière, ils ne sont pas arrivés à la base. Je vous rappelle que Molière était le commensal du roi. Eh bien, quand vous assistez à une pièce de Molière, et on dit c'est la langue de Molière, eh bien, ça vous décrit une société vivante, une société qui était une société de liberté, si vous voulez. Bon. Et donc, ceux qui veulent, la France, il y a des gens qui veulent inventer un nouveau modèle. Il n'y a pas on ne peut pas réinventer de nouveau modèle. Il se pourrait que la France disparaisse et qu'il y ait autre chose qui vienne, par exemple une république musulmane, autre chose, c'est possible. C'est comme en Égypte, personne ne parle jamais de l'Égypte. Je vous rappelle que l'islam a complètement détruit tout ce qui était copte. Les coptes, c'était les Égyptiens de base. Et donc, il y a un modèle, c'est comme une plante, ça vit, effectivement, ça peut mourir. C'est-à-dire que la France peut mourir, c'est pas le moment de décrire ce que c'est que la France, mais personne ne décrit ce que c'est que la France. D'ailleurs, on n'entend que des âneries sur l'identité française, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais donc, le principe vital de la France, il est à rechercher et il se voit dans tout ce qu'a laissé la France au plan religieux, au plan culturel, au plan politique, au plan artisanal, etc., bon, au plan gastronomique. Et donc, actuellement, il n'y a pas une nouvelle offre. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'était le mode d'où on vient, mais on ne va nulle part. Il n'y a rien. D'ailleurs, le débat à l'Assemblée, quand on dit que c'est représentatif, les partis politiques ne représentent rien. Qu'est-ce que ça veut dire l'ANUS, compagnie, ça ne veut rien dire. Excusez-moi le mauvais jeu de mots. Ensuite, vous avez, que veut dire, même le Rassemblement national, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement, une chose. Quand vous prenez ensemble, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est-à-dire que ce qui représentait la France, et on le voit dans les États généraux, c'est-à-dire que l'organisation de la France était organique. C'est-à-dire que c'est comme elle était biologique, c'était un produit bio, résultat de vin. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui représentaient la défense du territoire. En gros, c'était la noblesse. Je parle de la noblesse d'épée, je ne parle pas de la noblesse d'Europe, c'est un autre sujet. Vous aviez les fils, donc les fils de la guerre, c'était les nobles. Les fils du ciel, c'était les religieux. Les fils de la terre, c'était les paysans, qui n'ont pas été admis aux États généraux, c'est dommage, évidemment. Et puis, vous avez les fils de l'industrie, c'était le tiers-État. Ou le clergé, ou le... Donc, vous aviez, c'était représentatif de quelque chose. Ça voulait dire quelque chose. Les cahiers de doléances voulaient dire quelque chose parce qu'ils représentaient des corps. Mais justement, dans le troisième article 3 des droits de l'homme, nul corps d'un individu ne peut exercer l'autorité qu'il en est mal expressément. C'est-à-dire que la République déteste les corps. Alors, elle déteste les corps, les provinces ont été détruites. Pisani a dit un jour le mot abominable de province. A été, disparaîtra, c'est ce qui se passe maintenant. Plus on parle de territoire, vous savez, territoire, ça rappelle les occupied territories, c'est les territoires occupés. Donc, territoire, c'est un terme militaire. Donc, ce qui est vrai, ce n'est pas la région, ça ne veut rien dire. Bon. Mais ce qui est vrai, ce sont les pays. Autrefois, il y avait le village, il y avait le pays, il y avait le province, la province, et puis il y avait la France, et puis il y avait. Bon. Et donc, ça, c'est le. La vérité, si nous voulons vivre, le système, il est simple, il n'y a rien à réinventer. C'est comme vous, vous ne pouvez pas vous réinventer. Vous pouvez, Macron, c'est le terme de Napoléon, Napoléon, je veux dire Macron. Bon. Ce qu'il faut, c'est faire vivre l'existant. C'est-à-dire, il faut faire vivre les villages, effectivement, il faut faire vivre, refaire vivre les pays, les solidarités organiques, culturelles, c'est ça la clé. Bon. Et après, parce qu'on n'est pas là uniquement pour se déplacer en voiture, il faut retrouver le village. Je demandais... dans un village à un coiffeur, une femme qui. Et c'est, qu'est-ce qu'a, vous êtes là depuis combien de temps? Elle me disait depuis 20 ans. Je dis, qu'est-ce qui a changé dans ce village, qui est un village bien connu? Elle m'a dit, ça ne vit plus. Et là, c'est un peu le bout de la fin. C'est la franc-maçonnerie et ce monde moderne, effectivement, a tué la vie. C'est-à-dire que vous regardez à la télévision la vie des autres. Vous ne connaissez pas votre voisin, vous ne vivez pas, vous ne faites rien. Mais où partez au tourisme? Vous allez voir ce que les autres ont fait. Et qui ne vit plus, si vous voulez, les églises.
Vous voulez dire quoi? Qu'ils ont tué la vie, mais aussi surtout la vie rurale au bénéfice de l'activité urbaine?
C'est là qu'il faut revenir. Le principe de géométrie, vous savez que je suis un matheux, si vous voulez, la géométrie a beaucoup de qualités, mais la géométrie est d'ordre minéral. C'est-à-dire qu'elle c'est pas vivant, même si dans la vie, on retrouve des figures de géométrie. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il y a une logique trilatérale. La logique trilatérale, c'est que nous sommes tous au cœur d'une trilogique trilatérale. Il y a le spirituel, il y a le vital et il y a le minéral. Bon. Et actuellement, dans les mathématiques, en supprimant d'ailleurs la géométrie, ils ont supprimé même le qualitatif. C'est-à-dire que nous marchons sur un sixième de logique. Et effectivement, la mort de la campagne est consubstantielle, je veux dire, au principe de la franc-maçonnerie, qui est l'esprit de géométrie. L'esprit de géométrie, c'est l'usine, la reproduction, la multiplication, etc. Mais ce n'est pas la vie. Et ce qui a été, ce que la République franc-maçonne et le langage franc-maçon ont fait, c'est qu'ils ont réduit à leur méthode qui est liée à la royale et qui n'inclut pas ni la biologie, si vous voulez, au vrai sens du terme, ni le vrai spirituel. Ce sont des formes mortes. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, et là, Bauer dit une chose très intéressante, nous en parlerons, Alain Bauer, parce qu'il se pose de bonnes questions, c'est peut-être pour ça qu'il n'a plus la même place qu'avant, c'est, si vous voulez, c'est l'origine pythagoricienne. Et chez Pythagore, que j'ai bien décrit, l'école pythagoricienne, qui est une école initiatique, bien entendu, avec les akousmatikoi et les mathématikoi, c'est-à-dire qu'il y a toujours les initiés et les cons, excusez-moi, mais c'est pour ceux qui n'auraient pas compris comment on les traite, eh bien, il y a les initiés et les autres. Et Eurytos, qui est un disciple de Pythagore, se voit un jour poser une question sur un plateau de l'époque. Les plateaux de l'époque, ce n'était pas BFM TV ou autre, excusez-moi la publicité, c'était une plage où il y avait du sable, on pouvait bon, ou ailleurs d'ailleurs. Bon. Et quelqu'un lui dit, mais vous dites que tout est nombre, parce que pour les pythagoriciens, tout est nombre. Mais l'homme n'est pas un nombre. Alors Eurytos, le pythagoricien Eurytos, ne se démontre pas. Il dit, mais je vais vous prouver que l'homme est un nombre. Vous rendez compte, ça c'était il y a 2500 ans. Hein, bon. Il dit, je vais vous prouver que c'est un nombre. Et il dit à la personne en question de s'allonger sur le sable. La personne s'allonge, évidemment. Alors il prend son doigt et tout autour de la personne, il dessine la silhouette. Il dessine la silhouette, les gens, etc. Et là, donc, c'est une ligne fermée. Donc, il a enfermé l'homme dans cette figure de géométrie, en quelque sorte. Et puis après, il prend des cailloux. Et je vous rappelle que cailloux, c'est calculus, le calcul. Et il met des cailloux tout au long de cette ligne. Et puis après, il compte les cailloux, et là, je dis ça pour l'humour, il dit 666. Donc, l'homme est bien un nombre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que l'homme, évidemment, n'est pas un nombre essentiellement, mais il peut être enfermé dans une figure de géométrie. Et la figure de géométrie peut être réductible au nombre. C'est ce que les pythagoriciens appellent l'arithmogéométrie. Trois triangles. Et là, on est déjà dans l'initiation maçonnique. Et donc, le monde moderne nous a enfermés dans des nombres et dans des algorithmes. Vous voyez, c'est la fameuse phrase « Je connais votre algorithme, je sais combien… »« Je suis votre algorithme, je compte vos palpitations cardiaques. » C'est-à-dire que le monde moderne réalise sans frein le rêve des pythagoriciens. Et là, vous retrouvez l'initiation maçonnique. C'est pour ça que je dis, si vous voulez réarmer votre intelligence, comprenez ce que je vous dirais sur la franc-maçonnerie qui, hélas, c'est pour ça que je vous dis, il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Alors, on peut dire que c'est une secte, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre en quoi elle est intrinsèquement perverse, si vous voulez, c'est que c'est un signe de mort. La franc-maçonnerie qui a tué le spirituel, qui tue le biologique, on le voit dans toutes les lois, elle est un instrument de mort, j'allais dire, à son insu. C'est-à-dire que le maçon est cocu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le Macron de base, il est cocu. Il n'est absolument pas initié. Il est un peu plus initié que le con qui est un profane, mais lui-même, on a toujours un plus con que soi, si vous voulez comprendre une expression. C'est-à-dire que c'est un millefeuille et dans lequel la feuille du dessous ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Et là, on tombe. Ce n'est pas l'occasion d'aller plus loin. Mais donc, dans cette initiation et la mort, c'est que la franc-maçonnerie fait passer les fils du spirituel et d'autres à sens inverse, même du pouvoir. Parce que la révolution s'est faite contre le pouvoir, soi-disant. Mais en fait, elle nous a détruit le pouvoir bienfaisant pour le remplacer par un pouvoir oppressif. Donc, elle fait toujours l'inverse. Et donc là, on arrive, puisque vous l'avez dit, si vous voulez, à la fin, c'est que notre système politique est fait pour nous faire glisser constamment à gauche. Mais à gauche, je vous dis, la métrique de la politique, c'est droite et gauche. Droite, c'est Dieu, le roi, et gauche, évidemment, c'est l'inverse. C'est la laïcité et c'est la diffusion dans les lobbies. Et donc, c'est ce glissement à gauche, c'est l'inversion des valeurs, c'est-à-dire c'est l'inversion théologique. Vous remplacez Dieu par l'homme et vous voyez maintenant le résultat, c'est que c'est cette haine intrinsèque de l'homme, cette haine de la femme d'ailleurs, cette haine de la vie, cette haine du futur qui fait que l'humanité est en perdition, ne fût-ce que pour une raison très simple, c'est que ce qui s'était jamais fait depuis le début de l'humanité, c'est de ne pas s'intéresser à l'au-delà. Alors les maçons font semblant d'être au-delà, et ils le sont jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que ceux qui ne trouvent pas leur nourriture dans cette nullité intellectuelle sont attirés par la tradition maçonnique, j'emploie le mot, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, la franc-maçonnerie est le dernier refuge de la tradition. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus subtil que ce qu'un peuple devrait penser, c'est-à-dire qu'ils ont, ils croient le trouver là, et ceux qui cherchent la tradition retrouvent cette destruction mortifère. C'est tout ça que je ne veux pas aller plus loin maintenant, mais qui est la clé, et je veux dire, avec cette idée qu'il ne faut jamais perdre de vue, nous ne sommes pas en laïcité, il y a un clergé, c'est le clergé de la franc-maçonnerie avec cette religion de droit de l'homme qui a inversé la religion qui avait fait la gloire, le salut, la richesse et la suprématie au bon sens du terme de la France. Et la France ne pourra pas revenir si elle n'inverse pas les fils, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas on peut dire de revenir à deuxième langue, mais il faut inverser les fils qui ont fait dominer la maçonnerie anglaise et derrière la maçonnerie anglaise, ce monde anglo-saxon qui est en train de détruire l'humanité. C'est-à-dire que je vous rappelle quand même le fondement des États-Unis, c'est trois choses. Le puritanisme, ça conduit à la prostitution. Bon, Deuxièmement, l'esclavage, fondement des États-Unis, les fameuses libertés. Et le troisièmement, c'est le génocide des Indiens. Voilà le genre de choses qui dominent le monde. Voilà. Et ce qui est tragique, c'est qu'on voit actuellement la politique des États-Unis, qui est une politique, comme le disaient les Indiens, pourquoi veulent-ils tout? Ils veulent tout. Et là, on est, si vous voulez, on va vers, toujours plus vers cet abîme. Et la France, et c'est le mot de la fin, si vous voulez, c'est à moins que vous me posiez une autre question, si vous voulez, c'est la France a le dépôt des vraies valeurs. Et ce qui prouve que ce que je dis est vrai, c'est qu'en dépit de toutes les calomnies des francs-maçons sur la royauté, sur la religion catholique, eh bien, le monde entier d'instinct, le peuple, démocratiquement, si j'en tiens un mot, les peuples sentent que c'est la France qui a le tabernacle des vraies valeurs. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que de même que les peuples d'Autriche-Hongrie rêvent encore d'Autriche-Hongrie, même Macron rêve encore de la royauté, puisque dans mon livre qui est là, j'ai dit « La figure du roi », Macron disait « Il manque au processus démocratique, il y a un vide, un absent, c'est la figure du roi ». Et donc, ça peut paraître fou, mais quand on fait marcher son cerveau normalement, on voit qu'il y a un maillon manquant, c'est le nouveau clergé. Et effectivement, c'est une religion inversée. Et tant qu'à faire, si on a une religion inversée, il vaut mieux avoir la vraie religion. Et j'allais dire, si on a un roi comme Macron inversé, eh bien, ceci dit, il n'y a pas de candidat, je vous rassure, actuellement, parce que c'est la désolation de ce côté-là. Mais il vaut mieux un homme qui ne change pas toutes les 2 minutes et revenir en tout cas. On appelle ça la deuxième alliance, on peut l'appeler comme ça, mais c'est revenir aux fondamentaux, aux principes vitaux, spirituels, intellectuels, culturels qui ont fait la France et qui, par la personne du roi, comme en Autriche-Hongrie, avaient préservé les peuples. C'est-à-dire que ce qui est frappant, contrairement à la conquête de l'Angleterre par les Romains et autres, c'est que la royauté française avait gardé ce millefeuille, d'une certaine manière, cette variété qui faisait que les Bretons, les Alsaciens, les Provençaux, les Arvernes et autres vivaient chacun leur identité sous la clé de voûte, effectivement, de la royauté et de la catholicité. C'est-à-dire, c'était même Bernard-Henri Lévy est obligé d'en connaître, c'est-à-dire c'est la recette magique de la démocratie qui préserve les coutumes, les coutumes, les usages, les patois, cette variété que nous avons perdue actuellement et qui est en train de transformer tout le monde en des zombies, une sorte de prolétaire intellectuel, bachelier qui ne sait rien et compagnie. Voilà. En tout cas, Donc, en tout cas, la clé, c'est que cette laïcité, de toute façon, ne va pas pouvoir tenir très longtemps. Mais en tout cas, c'est elle qui nous tue. Et vous avez parlé de l'âme. Il n'y a pas de peuple sans âme populaire, et maintenant il n'y a plus d'âme populaire. L'individualisme, c'est évidemment la mort de l'âme, et ce que nous aimons, et nous l'avons vu lors de ce coronavirus, nous aimons nous retrouver ensemble et nous aimons communier sur des vraies valeurs. Ce qui compte, ce n'est pas la fraternité, puisqu'il faut un même père, nous n'en avons plus, puisque Dieu n'existe pas, n'est-ce pas, pour la laïcité, mais ce qu'il faut, c'est une communion. Et la clé du catholicisme, c'était la présence réelle copiée par les maçons, justement, avec la petite tête lumineuse, et surtout cette communion que l'on retrouvait dans ces fêtes, cette manière de se retrouver. Parce que le but de la vie, ce n'est pas Internet, ce n'est pas de regarder les autres à la télévision, c'est de vivre soi-même. Alors, il y a une équation, et je n'en parlerai pas plus, c'est évidemment la question technique. Effectivement, il y a cet élément, cette crémaillère dont j'ai parlé dans mes livres précédents, la perversion mathématique, c'est cette mathématisation qui évidemment nous conduit à l'homme qui est zéro. J'avais fait un article dans la revue Autrement, je disais déjà à l'époque, c'était dans les années 90, nous allons vers un pouvoir infini et un homme nul si nous continuons dans cette voie. Et hélas, la franc-maçonnerie, évidemment, c'est un accélérateur dans cette voie et il n'y a aucun frein pour revenir à l'humanité. Et l'humanisme maçon, c'est la destruction de l'homme.
Alors, on arrive donc à la fin de cette interview. Juste une dernière question, Monsieur Upinski. Quel message donnez-vous aujourd'hui aux individus qui sont dans la franc-maçonnerie, en quelques mots?
Ah ben, il est bonne, celle-là. Bon, je dirais que d'une manière générale, mon message, si vous voulez, c'est de dire que l'âme d'invisibilité est théologique. Et ça, les francs-maçons l'ont compris. Bon, le problème, c'est qu'ils le font à l'envers. Donc, d'une manière générale, il faut se réarmer, se mobiliser, agir. Il faut vraiment vouloir changer les choses. Il faut s'engager en rendant visible ce, quelles sont les armes de la franc-maçonnerie, pour s'en emparer bien sûr, il faut s'en engager. Je dirais qu'il faut diffuser notamment, en particulier, notre entretien. Et il faut vraiment comprendre, suivre pas à pas cette initiation à la magie noire et à l'art royal que je n'ai pas terminée, mais il faut bien réfléchir, s'en emparer. Et puis, donc ça, c'est pour tout le monde. Mais concrètement, j'avais lancé un appel aux guerriers. On voit qu'actuellement, s'il n'y a pas ce qu'il y avait, comme la franc-maçonnerie, d'une certaine manière, qui copie les ordres religieux, si vous voulez, si nous n'organisons pas, si vous voulez, la défense spirituelle, intellectuelle et politique de la France, eh bien, nous avons les ennemis qui vont détruire. Et plus particulièrement, je dirais pour les francs-maçons, finalement, c'est que j'allais dire, d'abord sous forme de boutade, qu'ils me rejoignent, parce qu'ils sont armés, si vous voulez, ils sont déjà armés. Donc, il n'y a plus que maintenant de les faire aller dans la bonne direction. Donc, je lance un appel de ce côté-là. Ceux qui veulent rester, eh bien, qui fouillent un petit peu pour voir ce qu'on leur cache. Mais je les invite finalement à utiliser tout le savoir-faire qu'ils ont, je dis pour les meilleurs, ceux qui ont encore une conscience, ceux qui sont donc en bas de la pyramide en général. Et il faut vraiment qu'ils fassent ce qu'on leur promet, c'est-à-dire un véritable humanisme. C'est ce qu'il appelle le grand architecte en lui donnant son vrai nom. Et effectivement, la logique, c'est qu'aucune révolution ne s'est faite à l'extérieur de la cité. Donc, ce sont aux révolutions, aux maçons qui sont à l'intérieur de la franc-maçonnerie, de faire la vraie révolution qui nous a conduit à l'abîme en 89, mais faire une révolution positive et finalement en utilisant les armes de la tradition traditionnelle qu'ils ont pour le bien et non pas pour le mal.
Arnaud Ipinski, merci beaucoup pour cette interview qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais qui est une bonne chose puisqu'il sera divisé en deux parties. Il sera disponible sur Apple Podcast, première partie, deuxième partie, sur Spotify et d'autres plateformes. Et aussi disponible donc sur le site de franceliberté.tv sous forme vidéo. Là encore, en deux parties, ça permettra de pouvoir assimiler toutes les informations très intéressantes qu'il y a dans cette interview. Et les différents points qu'on a abordés. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot sur cette interview?
Non, je l'ai dit, nous sommes vraiment à un moment tragique de l'humanité et c'est en remettant la théologie, l'intelligence, tout en remettant le monde à l'endroit que nous pourrons sauver cette humanité en perdition qui est dans une souffrance spirituelle, physique et autre, terrible. Et avec tous ces mensonges qui sont diffusés sur la prétendue écologie, il y a une haine de la nature, je veux dire. Et donc, il faut vraiment que les élites, les vraies, se mobilisent pour remettre ce monde à l'endroit, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, j'invite les maçons qui sont intéressés, si je peux dire, par le bien, à faire ce qu'on leur a promis et ce qui est trahi, parce qu'on les conduit à l'inverse de leurs promesses, comme tout ce qui est fait à l'extérieur. Et ceci dit, les autres, ceux qui veulent vraiment agir, je les invite éventuellement à me contacter, mais il y a un travail titanesque, mais qui est nécessaire parce que nous y sommes déjà à l'abîme, et il y a pour l'instant, sauf la nature des choses, heureusement, c'est-à-dire que la nature aura le dernier mot, bon, ça on ne doit pas l'attendre, mais l'intelligence, ça consiste quand même à prévenir et ne pas attendre que les choses se fassent tout seules dans les douleurs de l'enfantement.
Parfait, merci beaucoup. Je précise aux auditeurs que donc cette interview sera en deux parties. Il y aura aussi la version intégrale qui sera diffusée sur les plateformes de podcasting, donc Apple Podcasts, Spotify, le site de franceliberté.tv. Inscrivez-vous aux notifications de nouveaux messages, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout abonnez-vous sur le canal Telegram de France Liberté pour suivre.
Et puis, excusez-moi d'ajouter, vous pouvez, les éditeurs, voir sur Réarmer l'intelligence, au-delà, bien entendu, ce que vous dites, revoir la succession de ces carèmes initiatiques et de me donner, évidemment, leur retour, qui sera toujours bienvenu. Voilà. Et merci de m'avoir invité pour faire ce bon travail, la bonne cause et remettre le monde à l'endroit, si je peux dire.
Merci, Monsieur Pinsky.
Merci, monsieur. Merci.